Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Merci Christelle et rendez-vous demain. Nous sommes donc avec Pierre, c'est le retour de l'école à distance aujourd'hui. On sait qu'il y a eu des bugs. Comment ça s'est passé pour vous? Vous habitez en Seine-et-Marne, Pierre?
Oui, exactement, Pascal. Bonjour.
Rebonjour.
Donc, écoutez, ça n'a pas fonctionné. Hein. C'est simple, mais là où je tique un peu par rapport à ce que dit le ministère, c'est sur le côté soi-disant un peu exceptionnel de ce qui est en train de se passer. Parce que je vais vous dire, j'ai en face de moi le message qui est affiché sur le site de l'environnement numérique auquel on ne peut pas se connecter. Et voilà ce qui est dit. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc a priori, c'est prévu. Pour permettre à chacun d'accéder à son réseau éducatif dans de bonnes conditions, nous avons limité le temps des sessions et instauré la logique des quotas. Quand le nombre d'utilisateurs maximum est atteint, il vous faut patienter pour y accéder à votre tour. Désolé pour cette contrainte, revenez et essayez à nouveau dans quelques temps. Voilà. Donc, quand on nous dit c'est une panne, c'est ceci, c'est cela, faut pas se foutre de nous. En fait, comme l'a très bien dit le monsieur qui a parlé tout à l'heure, a priori, on a l'impression que on n'a tenu aucun compte des problèmes qu'il y a eu il y a un an. Personne n'a strictement rien foutu, on se moque de nous. On a une administration complètement à côté de la plaque et c'est pitoyable.
Ce que vous dites est terrible. Ce que vous dites est terrible, mais c'est la réalité du terrain. Qu'est-ce que vous allez faire cet après-midi?
Bah alors écoutez, moi déjà j'avais cours ce matin, donc il a fallu que je passe par les adresses mail des élèves que j'avais relevées et que j'utilise mon adresse mail pour leur communiquer un site Zoom pour pas le citer, parce que comme par hasard, les sites éducation nationale ne marchent pas, mais tous les autres ils marchent. Donc moi si je suis un pirate informatique, j'essaye de tout bloquer, je vais pas bloquer que ça. Mmh. Donc on est passé par Zoom, et par Zoom ça a très bien fonctionné, mais bon j'en ai récupéré que la moitié, etc.
Ah oui, vous êtes donc, quand même bien organisé et réactif. Parce que...
Bah il faut...
Parce que vous avez découvert le bug vers 9h, j'imagine?
Eh bien écoutez, non, mais pire que ça, 9h30 pour un cours à 10h. Et donc, il a fallu en une demi-heure envoyer des mails à tout le monde, etc. Et encore heureux que j'avais déjà une session Zoom qui existait. Mmh. Parce que sinon, j'aurais été bien embêté.
Bah écoutez, bravo à vous. Parce qu'en une demi-heure, vous avez récupéré, quoi. Vous aviez sans doute dans la machine toutes les adresses mail, donc vous avez contacté tous vos élèves et vous en avez récupéré la moitié. Je peux vous dire que vous êtes...
hein ? Oui, bah écoutez, on fait ce qu'on peut, mais bon, je crois que, vous savez, on déconsidère tellement les enseignants dans le monde, en France, on n'a vraiment pas bonne presse. Je veux dire que là, tous les collègues se donnent un mal de chien pour essayer de bosser un temps soit peu. Et quand on voit le peu de considération qu'on a de la part de notre administration, les fadaises qu'on raconte à la radio pour faire croire que c'est exceptionnel, etc. Pas du tout. Ils ont rien préparé. Absolument rien préparé. C'est pitoyable.
Bah écoutez, vous êtes effectivement assez dur, mais là encore, c'est un témoignage du terrain. Vous êtes prof d'histoire.
Oui.
Donc on a le sentiment parfois, d'ailleurs, quand on voit aujourd'hui les élèves qui sortent de l'éducation nationale, que c'est le grand oublié, l'histoire. Moi, je suis toujours surpris de voir, il me semblait que ça nous intéressait, nous, élèves des générations des années 60 ou 70, mais j'ai l'impression qu'il y a des trous entiers sur la chronologie, sur des impasses. Ils savent pas si Napoléon est avant Louis XIV, alors je caricature un peu, mais je suis souvent effrayé, en plus, des gens qui ont le bac.
Ben oui, mais on en avait déjà un petit peu parlé, mais tout le problème, c'est les programmes. Pendant 10 ans, on nous a demandé de faire de l'histoire sans chronologie, en mélangeant tout. Et ben voilà, ça donne ce que ça donne. Alors on y revient un petit peu, hein. Le nouveau programme qui est en route depuis 2 ans, il est revenu quand même à quelque chose de plus chronologique, et il faut espérer que ça va porter ses fruits.
Bon ben ok, merci vraiment beaucoup à vous Pierre, vous étiez le premier auditeur, on va être avec Sophie dans une seconde, Sophie qui est enseignante également en français et qui va nous dire comment ça a marché ce matin. Qui a eu cette idée folle un jour de voter l'école à distance? École de résistance. Bonjour monsieur Caranoni.
Bonjour monsieur Pro, bonjour à tous.
Vous allez bien?
Ça va, merci.
Le petit Pio ne va pas encore à l'école à distance?
Non, non, non.
Pour même s'il est très en avance.
Comme
forcément.
Tous les... Chaque enfant est en avance.
Hein?
Pour vous, vous avez raison, et pour chaque parent, son enfant est en avance.
Ah, vous aimez cette expression?
Oui, j'aime
vous
beaucoup,
avez.
Oui.
Bah, elle est formidable. Les gens ont toujours raison pour eux-mêmes.
Bah, je vous écoute tous les midis. Hein.
Bah, oui, bah, vous avez raison. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier est avec nous. Dans une seconde, on va être avec Paola. Et si vous nous suivez régulièrement, Paola est une jeune collégienne de 14 ans qui nous appelle et qui fait preuve toujours d'une très grande maturité et d'une excellente expertise. Laurent.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est le retour de l'école à distance aujourd'hui. Les cours en visio fonctionnent-ils pour vos enfants? Arrivent-ils à se connecter? Y a-t-il des bugs informatiques? Bien, depuis ce matin, il y a des problèmes de connexion dans certaines régions, des messages d'erreur, mais pas seulement. Écoutez le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
Vous avez eu des attaques informatiques apparemment venues de l'étranger pour, quelque sorte, empêcher les serveurs de fonctionner. Là aussi, le travail technique est en train être fait pour rétablir cela. Fort heureusement, ça ne touche pas tout le monde partout. Il y a des gens qui arrivent à travailler avec ma classe à la maison aujourd'hui. J'espère qu'au cours des prochaines heures, ça va se rétablir.
L'an dernier, l'école à la maison avait mal commencé également avec des réseaux saturés et des espaces de travail inaccessibles. Sophie Vénétitès, secrétaire générale adjointe du syndicat d'enseignants SNES-FSU, était l'invitée de RTL Midi avec Christelle Robière.
Ça commence mal. On a l'impression vraiment de revivre les premiers jours de l'école à distance de mars 2020. Pourtant, on aurait dû tirer les leçons de ce qui s'est passé. Là encore, rien n'a été anticipé. Aussi bien au niveau des collectivités territoriales que du ministère. L'institution, elle, n'était pas prête, contrairement à ce que Jean-Michel Blanquer dit depuis le mois de septembre, quand il claironne un peu sur tous les tons, que nous sommes préparés à tout.
Professeurs, parents, élèves, racontez-nous cette première matinée. Eh bien, c'est une catastrophe. Réagit Cécile sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Rien ne fonctionne comme d'habitude. L'ange GG, même problème chez Ghislaine. Mon petit-fils est en 5e. Il n'a pas réussi à se connecter à son cours d'histoire ce matin. Cours en visio, impossible chez Bertrand. Au bout de 30 minutes, à mon fils est passé autre chose. Quand la visio ne marche pas, c'est le site pour consulter les devoirs qui bug à son tour.
Merci Laurent. J'ai devant moi les images des chaînes info et on est quand même dans une drôle d'époque. Le Stade de France, vous le savez, il n'y a plus jamais un spectateur qui y va aujourd'hui. Les matchs sont à huis clos. Et là, je vois ce Stade de France avec plein de gens qui sont, ou beaucoup de personnes qui sont en train d'arriver pour se faire vacciner. Donc effectivement, je n'avais pas imaginé que le Stade de France où l'équipe de France est championne du monde en 98 servirait aujourd'hui de vaccinodrome. J'ai dit n'imaginez pas cela. Paola, bonjour.
Pascal, bonjour.
Bonjour, vous êtes collégienne à Paris, Paola?
Absolument, oui, dans le 11e arrondissement.
Dans le 11e arrondissement, et puis vous nous appelez de temps en temps. Donc vous êtes en ce moment en école à distance, comme tous les écoliers de France, pour 4 jours. Après, il y aura 2 semaines de congé, quoi, de vacances. Et puis vous reprendrez l'école à distance les derniers jours d'avril. Comment ça s'est passé ce matin?
Ben, écoutez, comme l'ont dit vos précédents auditeurs, retour en mars 2020. Voilà, on revient un petit peu les mêmes choses, les serveurs qui plantent. Alors moi, je suis sur le serveur Paris Classe Numérique, je pense qui concerne la plupart des élèves à Paris.
Mmh. Paris, donc, ça s'appelle comment? Paris Classe Numérique.
Paris Classe Numérique, ouais, PCN.
PCN, d'accord, je note.
Et donc, on ne peut pas se connecter. On a un message qui nous indique la saturation de la plateforme et qu'on a un temps limité. Donc, moi, apparemment, il était limité à 10 secondes. Hein. Je n'ai pas eu beaucoup de temps. Donc,
qu'est-ce qui était limité à 10 secondes? Je n'ai pas compris, Paola.
Ah, la connexion.
Moi, pourquoi? Ça veut dire quoi, une connexion limitée à 10 secondes?
C'est-à-dire que pour se connecter, le serveur nous sert envoyer des messages aux professeurs, donc à rendre les devoirs, comme moi j'en ai par exemple aujourd'hui, à consulter ce qu'on a à faire dans les prochains jours. Et voilà, cette connexion est limitée à, je ne sais pas, des quotas, comme l'indique le message. Mmh. Et voilà, on a un temps limité et ce matin, j'ai pas dépassé les 10 secondes, quoi.
Je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais Greg comprend tout. Vous avez tout compris, parce que moi je suis un peu lent sur certaines choses.
Oui, si j'ai bien compris, en fait, il y a un nombre limité de personnes qui peuvent se connecter une durée limitée.
Voilà,
et Paola n'a pas pu se connecter à part 10 secondes.
Voilà, c'est exactement ça.
Ça n'a duré que 10 secondes. Au bout de 10 secondes, ça s'arrêtait, c'est ça?
Alors je ne sais pas si ces 10 secondes concernent tous les élèves.
Ouais. Mais, oui, en fait, je n'avais pas compris.
Voilà, je n'ai pas pu... consulter mes devoirs, faire ce que je voulais. Voilà, donc ça va poser problème. Je n'ai pas eu encore de classe virtuelle, mais je pense qu'à part si le problème n'est pas résolu, ça va pouvoir se produire.
Bon, et qu'est-ce que vous... Et en fin de matinée, ça n'a pas mieux marché?
Non.
D'accord.
Non, il n'y a pas eu de... Jean-Michel Blanquer a dit que le problème devait être réglé dans les prochaines heures. Pour le moment, il n'y a aucune progression.
Bon. Voilà, donc, alors qu'est-ce que vous allez faire?
On est dans l'attente. On est dans l'attente. Là, c'est
ennuyeux parce que comme il y a 4 jours cette semaine, s'il y en a un sur 4 qui ne marche pas, c'est juste 25% de l'école à distance de la semaine qui est par terre.
Oui, je viens de penser pour l'organisation des... Donc nous, en tant qu'élèves, mais aussi des parents d'élèves, aux professeurs qui ne va pas bien, tout simplement. Les professeurs étaient à Saint-Quel la semaine dernière. Ils ont tous fait, je pense, à leur échelle, des efforts. Ils ne peuvent pas être mérités aujourd'hui. Mmh. Moi aussi, ce que je voulais dire, c'était que je trouve qu'il y a un gros problème. J'ai l'impression presque de briser un tabou alors que ça ne devrait pas en être un. C'est les sources, en fait, du ministre de l'Éducation nationale que j'arrive pas à comprendre pourquoi il ne les livre pas, en fait, si elles sont si évidentes pour lui. Alors là, je fais allusion, effectivement, au purificateur d'air, par exemple. Auquel il avait dit que l'utilité était inexistante. Et par exemple, justement, ces cyber-attaques, si je ne me trompe pas, venant de l'étranger, je ne comprends pas pourquoi il ne donne pas sa source, en fait, parce que j'ai fait un tour sur Twitter ce matin, et puis tous les élèves, les parents d'élèves, les enseignants sont juste exaspérés, en fait, d'être dans l'inconnu, dans un trou noir, en fait. Et je pense que ça manque de lucidité.
Bon, écoutez, merci Paola, et je suis toujours surpris de votre maturité quand vous vous exprimez, parce que tout ce que vous dites est tellement juste et précis. Merci grandement Paola. On est avec Jean-Rémy Girard, qui est président du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges, et qui est également professeur de français. Bonjour Monsieur Girard.
Bonjour Pascal Pro.
Comment ça s'est passé pour vous ce matin ?
Alors, moi, ça va parce que j'ai pas cours le mardi, donc ça s'est plutôt bien passé. Voilà, mais pour mes collègues,
C'est la meilleure punchline de l'émission, ça, c'est vrai.
C'est ça. Non, mais faut jamais essayer de faire des choses la première journée, hein. De toute façon, on avait bien vu l'an dernier.
Vous parlez à l'école, bien sûr.
Voilà, l'enseignement à distance, on sait très bien que le premier jour est toujours, est toujours problématique, et donc on n'est pas surpris.
Mais si on passait directement au deuxième, alors ?
Oui, voilà, c'est une excellente idée.
Si l'année prochaine, on pourrait peut-être aller directement au deuxième jour, on zappe le premier.
Exactement. Non, mais il y a plein de choses. Enfin, qu'on soit bien d'accord, la raison principale, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui se passent, qu'il n'y a pas des cyberattaques ou des choses comme ça. Mais la raison principale.
Enfin, la cyberattaque, elle a bon dos quand même. La cyberattaque de l'étranger sur. C'est possible, hein, d'ailleurs, ça m'a fait sourire, mais bon, je ne peux pas remettre.
Le CNED avait porté plainte l'année dernière. Mmh. Donc
ce n'est pas de pause, ça serait juste aujourd'hui qu'il y ait une cyberattaque ce matin.
Le truc, c'est peut-être que c'est conjugué, en fait, au très très grand nombre de connexions. C'est probablement... de toute façon, le très grand nombre de connexions a forcément un impact. Et c'est pas que le CNED, hein, puisque c'est à peu près la plupart des environnements numériques de travail, celui d'Île-de-France, de la région Grand Est, entre autres, mais d'autres, d'autres plateformes également, Éducation nationale, c'est assez généralisé. Donc, l'an dernier, il faut quand même se souvenir qu'il y avait eu mis en place, moi je m'en souviens très bien, en Île-de-France, en tous les cas, qu'on avait mis en place des horaires de connexion par la suite.
Où mais
on
oui.
avait dit, les parents de tel niveau, vous vous connectez à telle heure, etc. On ne l'a pas fait. Là, c'est probablement une erreur.
Bon, est-ce que vous pensez qu'après les 15 jours de vacances et la dernière semaine, a priori, de classe, est-ce que vous pensez que vous serez de retour dans votre classe physiquement le 2 mai, je crois, ou le 3 mai ?
Alors, j'en sais rien parce que j'ai pas de boule de cristal sur l'évolution de l'épidémie. Nous, on espère que ce sera suffisant. On n'en est pas certain, hein, bien entendu. On espère que ça suffira, cette période-là. On va suivre les chiffres très, très attentivement. Nous, en tous les cas, on ne reprendra pas, on l'espère, sans des mesures réelles jusqu'à la fin de l'année scolaire. Toutes celles qu'on a pu demander au SNALC depuis des mois et des mois sur les dédoublements, les groupes à effectifs réduits.
Mais si vous étiez vacciné, par exemple, si les profs étaient vaccinés, peut-être que ce serait la bonne solution quand même. Moi, je pense que c'est ça la solution.
Alors oui, non, la vaccination... Enfin,
c'est une des solutions, ça épargnerait les enseignants, ça épargne peut-être pas les élèves, mais au moins les enseignants seraient protégés.
Alors bien sûr, ça aiderait énormément la vaccination. Nous, on suit ça là aussi de très près. On voit que c'est quand même compliqué à mettre en œuvre. Le président de la République a annoncé une priorité vaccinale sur certaines professions comme les personnels de l'éducation nationale. Il a parlé des enseignants, mais on pense que c'est d'autres personnels aussi. Le problème, c'est la mise en œuvre. Là, pour l'instant, on est en train de nous dire on va vacciner prioritairement à partir de fin avril ceux qui travaillent dans les structures spécialisées avec les élèves handicapés. C'est très très peu de personnes, ça. Si c'est pour qu'on soit vacciné avec la deuxième dose fin juin, et comme ça on aura l'immunité pendant les grandes vacances, c'est génial, mais ça ne va pas nous aider.
Merci Monsieur Gérard de garder un peu d'esprit et d'humour dans ces temps difficiles.
Exactement.
Il n'y a pas de prof d'humour d'ailleurs, c'est dommage.
Ah si, si, on étudie les comédies.
Oui, non, mais il faudrait une discipline peut-être de dérision et d'humour, ça serait intéressant. Mais est-ce que l'humour...
Je pense que c'est transversal.
Voilà, est-ce que l'humour ou la dérision s'apprend, ça, je ne sais pas, ou est-ce qu'on est naïté avec. En tout cas, merci Monsieur Girard. D'ailleurs, merci. Puisqu'on parle d'humour, je vais remercier Greg Caradoni, parce que pourquoi la playlist hier... consacré à Madame Léonore Monconduit sur les rêves était absolument formidable. Toute la journée, on m'en a parlé.
On m'en a parlé une fois ou deux également, c'est vrai.
C'est vrai.
Bah, je suis ravi, on fait des playlists quand vous le souhaitez. Hein.
Dites-moi, vous êtes amateur de trottinettes, paraît-il.
Absolument.
Moi, j'aime beaucoup ce sujet. Est-ce que vous pensez que les usagers de trottinettes électriques sont dangereux? Et selon un dernier baromètre AXA Prévention, 79% déclarent rouler sur le trottoir, 68% ne portent pas de casque, 66% ne s'arrêtent pas au feu orange. Et parallèlement à ce sujet, et n'y voyez pas malice, il y a également un sujet sur l'euthanasie. Vous pourrez réagir à cette phrase de l'écrivain Michel Houellebecq : une civilisation qui légalise l'euthanasie perd tout droit au respect. C'est une chronique, une tribune qu'il a écrite dans Le Figaro. Évidemment, la trottinette n'est pas liée à l'euthanasie. Nous sommes d'accord, c'est pas un moyen d'aller plus rapidement à Patresse, comme disaient les anciens. Il est perdu là.
Non, je suis pas perdu, mais je m'abstiens de faire tout commentaire sur les trottinettes parce que
la trottinette,
sur les trottinettes, vous mettez tout le monde dans le même panier. Quelques personnes qui ne respectent pas ces règles.
Bah, soit vous rigolez, 79%. C'est pas quelques personnes, c'est une majorité.
Je crois que je fais partie des trois catégories dont vous avez parlé en plus.
D'accord. Ah, vous roulez sur le trottoir?
Ça m'est arrivé une fois, je crois.
Bon, bah, une fois ça va. Mais on roule
le
pas
feu orange, peut-être une fois.
Non, mais au feu orange.
Pas de casque. Jamais de casque, c'est vrai.
Vous avez des casques audio, vous avez un casque même dans un studio.
C'est vrai.
Bon, appelez-nous sur ces sujets-là et sur les autres, parce que ça nous intéresse. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On va être avec Sophie qui est enseignante en français.
En tout cas, on apprend un mot par jour dans cette émission. En tout cas,
pourquoi
moi, j'apprends un mot par jour.
Pourquoi?
Parce que ad patres, en effet, je ne connaissais pas.
C'est une locution latine. Ad ver patres, les pères, les aïeux. Ad patres, tu retournes vers tes aïeux.
Et hier, j'ai appris le mot apocryphe.
Ah, apocryphe, c'est autre chose.
Inauthentique, je le dis du coup.
Voilà, mais ad patres, on disait ça jadis. Ad patres, tu vas. Ça, en fait, ça veut dire mourir. Sophie, bonjour, qui est enseignante en français. Qui a dû faire du latin, Sophie.
Tout à fait.
Ah. Vous allez bien?
Oui, ça va bien.
Bon,
comment ça
s'est passé ce matin?
Ben écoutez, ça s'est mal passé. Je rejoins tout à fait, effectivement, donc mes collègues. Déjà, pour installer les classes virtuelles, eh ben, il faut quand même déjà avoir un petit peu de connaissances en informatique, parce que moi, j'ai un temps bien heureux pour installer ça. Il y a aussi quelque chose que le ministre oublie, c'est qu'effectivement, nous ne sommes pas tous parisiens ni dans une certaine élite. Il y a beaucoup d'élèves qui, malheureusement, ne possèdent pas d'ordinateur personnel.
Ça, c'est intéressant. Beaucoup d'élèves, en pourcentage, combien dans vos élèves, dans vos classes, n'ont-ils pas... parce qu'on a l'impression que tout le monde, quand même, a un portable aujourd'hui.
Bah, très peu. Parce qu'en fait, les élèves, certes, ont tous un téléphone portable. Mais suivre une classe virtuelle sur un téléphone portable,
ça, c'est pas possible.
C'est très galère. Et puis aussi, l'autre chose aussi qu'il faut penser, moi, ce matin, j'ai essayé de faire des essais avec certains de mes collégiens. Certains habitent en campagne. Et effectivement, quand on n'a pas la 5G et la 4e, fonctionne pas non plus terrible, pour se connecter aussi, c'est la vraie galère. Donc, du fait, il faut quand même vraiment être hyper motivé pour suivre une classe virtuelle. Et quand vous avez aussi des parents qui sont en télétravail, il faut partager l'ordinateur. Donc, il faut vraiment, vraiment être très motivé, que ce soit pour les enseignants ou pour les élèves.
Bon, le bilan qu'on tire à 13h24, et c'était vrai aussi dans le journal de Christelle Robière, c'est que ça ne marche pas et que ça va être un four pour le moment, que c'est 3 ou 4 jours de classe virtuelle, de classe à distance. Ben, oui, alors j'espère que ça va s'arranger, mais cet après-midi, par exemple, vous avez prévu quoi ?
Eh bien, du fait, moi, je leur ai envoyé des documents donc à remplir, qu'ils doivent me renvoyer sur ma boîte mail. Enfin, on est bien d'accord que moi, je n'ai pas fait ce boulot pour être derrière un écran.
Bah oui, mais faut s'adapter un peu, Sophie. Il faut peut-être. C'est faute de mieux. C'est un pis-aller, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Enfin, je veux dire, ça va faire encore des tas d'heures de perdu, des gamins complètement en perdition.
Mais oui, mais qu'est-ce que vous vouliez faire ?
Laisser ouvert les classes.
Ah bah oui, mais ça, c'est pas la décision qui a été prise.
Bah oui, mais enfin, je veux dire, on se plaint que le niveau baisse, mais c'est pas grave, il y aura encore 97% de réussite au bac, donc tout va bien. Tout va bien.
Je sais pas, là, je peux pas vous répondre, Sophie. J'ai l'impression que les enseignants, est-ce qu'ils souhaitaient ou pas que les classes restent ouvertes ?
On était quand même beaucoup d'enseignants à souhaiter être devant nos classes, parce qu'on est quand même bien moins efficace derrière un écran.
Mais nous sommes d'accord, Sophie, ça ne se discute pas, mais là, c'est une période particulière. D'abord, c'est a priori, c'est 4 jours là, 5 jours ensuite et 15 jours de vacances.
Oui, bah 15 jours de vacances et derrière, on a une semaine. Je sais pas si vous avez regardé le calendrier. Il y a le grand week-end du 15 mai. Ça m'étonnerait qu'on reprenne l'école le 3 mai. Ça m'étonnerait. Donc ça va faire encore une année non aboutie.
Mais je suis d'accord, ouais, Sophie. Mais convenez. Je ne veux pas défendre la politique du gouvernement, on l'a souvent attaqué ici, mais convenez que la France est le pays qui a le plus préservé son école. L'Angleterre a fermé du 15 décembre de mémoire jusqu'au 10 mars.
Qu'avec la météo qu'on a, là, que les gamins ils sont pas dehors ? Mais moi, mes élèves, c'est ce qu'ils m'ont dit, mais madame, nous, on va se retrouver avec les copains. Alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux, les avoir dans nos classes, plutôt qu'ils soient dehors, dans les parcs, à se regrouper, à sortir ?
Bah, ils seront dehors, déjà, alors qu'à l'école, ils sont à l'intérieur.
Enfin, bon, on fait quand même tout, on a mis quand même des protocoles. Nous, on a fermé le collège, nous, on avait 0 cas de Covid.
Mais Sophie, alors ça s'entend aussi. Ça m'agace. Je ne sais plus quoi dire parce que ce que vous dites s'entend. Et sur le Covid, je trouve qu'on en fait trop en général. Donc, vous voyez, je suis dans un grand écart. Donc,
parce que être contaminé, hein, c'est une chose. Mais être contaminé, ce n'est pas mourir. C'est pas Ebola quand même.
Mais Sophie, je passe mon temps à le dire. Donc, à l'antenne comme dans ma vie privée. Donc, je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que vous voulez ?
Parce que là, on va le payer. Parce qu'il y a des tas d'élèves là qui sont complètement perdu, angoissé à l'idée de ne pas venir à l'école, quand même, il faut le dire. Il y a effectivement beaucoup d'élèves aussi qu'on va perdre, parce qu'effectivement, ils vont être dans les rues, ils ne se connecteront pas, etc. etc. parce qu'il faut quand même rappeler, comme je l'ai dit en préambule, que c'était quand même hyper complexe. Même nous, je dirais, au bout d'un moment, les enseignants, je veux dire, on met toute notre bonne volonté, et puis on est hyper frustrés de que ça ne fonctionne pas. Je veux dire, on n'a pas fait ce travail pour être derrière un écran.
Oui, alors c'est particulier, c'est une séquence particulière. Il faut s'adapter, comme dit l'autre, j'entends.
On essaie de s'adapter, mais c'est vrai que quand on passe des heures et des heures et que votre ENT bug et vous met que les élèves ne peuvent pas se connecter et vous non plus, et ben vous vous dites, tout ça pour ça.
Vous êtes, quelle classe vous avez aujourd'hui ?
Eh bien, moi, je suis en collège et c'est vrai que... Et même aussi un mot tout simple, vous parliez de vocabulaire tout à l'heure. Moi, il y a sur le NT, là, où les gamins doivent créer leur profil de classe virtuelle, il leur est demandé de donner une adresse de courriel. Eh bien, j'en ai 3 ou 4 qui m'ont envoyé un mot en disant « Mais madame, qu'est-ce que cela signifie ?» Ben oui, c'est à des collégiens qu'on s'adresse. On ne s'adresse pas à des universitaires.
Dites-moi, Sophie, vous avez des troisièmes ?
Oui.
Et alors, qu'est-ce qu'on étudie comme roman ou comme essai ou comme livre en troisième ?
Ben, je trouve qu'on étudie plein de choses qui les fait réfléchir en ce moment, du type « Bienvenue à Gattaca », 1984, où effectivement on leur montre toutes ces privations de liberté. Et je peux vous assurer qu'il y a des résonances et que les élèves sont très au fait de tout ça.
Eh ben écoutez, 1984 de George Orwell. Et pas de théâtre classique ?
Oui, alors le théâtre, nous, pas en troisième. En troisième, on étudie souvent théâtre contemporain type Antigone d'Anouilh.
D'accord. Bon.
Voilà.
J'aime bien poser ces petites questions et puis on se souvient de ce qu'on étudiait nous-mêmes et de quelques différences qui peuvent exister. La pause et nous revenons avec toujours Greg Caradoni qui va peut-être nous proposer une playlist sur les trottinettes aujourd'hui, on ne sait pas.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
Nous vous attendons sur d'autres sujets au standard. Le vaccin AstraZeneca vous inquiète-t-il ? Un responsable de l'Agence européenne des médicaments confirme l'existence d'un lien entre l'AstraZeneca et les cas de thrombose observés après son administration. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait tenu à rassurer sur ce vaccin hier chez nos confrères de TF1.
La meilleure preuve de confiance, ce sont ces dizaines de milliers de médecins, de pharmaciens et d'infirmiers qui ont commandé des vaccins AstraZeneca pour cette semaine. Parce que eux souhaitent protéger leurs patients avec un vaccin dont on le sait qu'il est très efficace. Et aujourd'hui, les autorités sanitaires et scientifiques nous disent vacciner, la balance bénéfice sur risque, elle est très positive.
La méfiance risque-t-elle d'augmenter ? Eh bien, il ne manquait plus que ça, réagit Christophe sur nos réseaux sociaux. Certains rendez-vous pour se faire vacciner ne trouveront pas preneur ces prochains jours. Vous verrez, ça ne change rien pour moi, écrit Patricia. Le risque est tellement faible, minime. On parle de 7 décès au Royaume-Uni sur 18 millions de doses administrées. Et vous, qu'en pensez-vous ? 32-10. Vous pouvez réagir également à cette phrase de l'écrivain Michel Houellebecq ce matin dans le Figaro. Une civilisation qui légalise l'euthanasie perd tout droit au respect. Qu'en pensez-vous ? La chanteuse Lynn Renaud a publié samedi une lettre ouverte à l'attention des députés. Elle leur demande de donner à chacune et à chacun la possibilité de choisir sa fin de vie. Eh bien, je suis d'accord avec Lynn Renaud, lance Marie-Christine sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. La France a 20 ans de retard dans ce domaine. Marion réagit au propos de Michel Houellebecq. Rectification, une civilisation qui oblige les personnes en fin de vie à mourir dans la douleur perd tout droit au respect.
Et Michel Houellebecq, il écrit également ceci dans cette tribune. Les partisans de l'euthanasie se gargarisent de mots dont ils dévoient la signification à un point tel qu'ils ne devraient même plus avoir le droit de les prononcer. Dans le cas de la compassion, le mensonge est palpable. En ce qui concerne la dignité, c'est plus insidieux. Nous nous sommes sérieusement écartés de la définition kantienne de la dignité en substituant peu à peu l'être physique à l'être moral, en niant la notion même d'être moral, en substituant à la capacité proprement humaine d'agir par obéissance à l'impératif catégorique, la conception plus animale et plus plate d'état de santé, devenue une sorte de condition de possibilité de la dignité humaine, jusqu'à représenter finalement son seul sens véritable. Bon, c'est un peu complexe, disons-le, mais c'est intéressant. Frédéric est là, et ça sera bien de parler de l'euthanasie tout à l'heure. Frédéric est là, il est chef d'entreprise, il est furieux, mais comme beaucoup de nos auditeurs, qui oscille entre une colère et une résignation depuis 13 heures. Bonjour Frédéric, vous avez une fille, et elle est en terminale et elle ne peut pas se connecter.
Bonjour, oui, bonjour à tous. Effectivement, c'est bien là le souci, et elle ne peut pas se connecter parce que nous sommes dans le fin fond de la Seine-et-Marne. Nous n'avons pas encore la fibre optique, elle est en train de se déployer, ce qui fait que nous travaillons en ADSL. Et dès que tout le monde se connecte sur Internet, eh bien, les débits tombent, ce qui fait que, voilà, on ne peut pas se connecter correctement sur les serveurs. Et moi, ce que je vois là-dedans, c'est que, notamment au niveau de l'ENT, de l'espace numérique de travail sur lequel elle doit se connecter, alors que dès 9h ce matin, il y avait déjà des problèmes, elle a appris seulement à 10h30 par un message de sa prof principale, comme quoi, effectivement, il y avait un problème sur les serveurs. Donc, il y a un manque de réactivité de cette institution qui, en plus, et c'est manifeste, n'a pas tiré les enseignements, notamment de la période du premier confinement. Ça, c'est justement malheureux. Et j'aimerais rebondir en même temps sur ce que disait votre intervenante précédente. À l'heure d'aujourd'hui, si les jeunes ne savent pas utiliser correctement l'informatique et s'ils ne connaissent pas la différence entre un email et un courriel, c'est aussi parce que le B2I, qui était le brevet d'initiation à l'informatique qui était enseigné depuis le primaire, n'existe plus. Ce qui fait que les jeunes arrivent au collège et ils n'ont plus les fondamentaux.
Écoutez Frédéric, je ne sais que vous dire. Sinon, votre fille, elle prépare donc son bac en ce moment ?
Tout à fait, elle prépare son bac. Bon, ce qui me rassure, c'est que c'est une élève qui est très très sérieuse et je suis conscient quant aux résultats qu'elle fournira tant bien que mal. Mais bon, c'est malheureux et ce qui est encore plus révoltant, c'est que les profs, notamment de son établissement, considère que puisque les élèves sont à la maison, ils ont plus de temps pour travailler, ce qui est faux. Ils n'ont pas plus de temps pour travailler, ça sert à rien de leur donner plus de devoirs. Ils ne pourront pas en faire plus et mieux que ce qu'ils font habituellement en cours. Et au-delà de ça, les profs ne comprennent pas qu'on a aussi notre rythme familial. Quand moi je suis à la maison en train de travailler, j'utilise la connexion filaire de ma box, donc ma fille se met en Wi-Fi et le débit en Wi-Fi est moins bon que le débit filaire. Et ça, les profs n'en tiennent pas compte. Est-ce qu'ils en ont conscience ? C'est bien là le problème.
Je pense que les profs, ils sont de bonne volonté. je vous assure, ils sont les premiers impactés et ils ont envie d'aider. Elle est dans le privé ou dans le public, votre fille ?
Dans le public.
Et dans le privé, dans le public, on donne plus travail en ce moment dans cette séquence où les gens sont à la maison que lorsqu'ils en ont, lorsque les élèves sont en présentiel.
Elle l'a vécu durant le confinement 1 et là, vu les devoirs qui arrivent, elle le vit déjà.
Ça, c'est quand même étrange. Je voudrais bien revoir Jean-Rémy Girard, ça, parce que ça, c'est la première fois que j'entends ça.
Alors, peut-être que c'est un problème d'établissement, mais là, c'est elle qui le vit de plein fouet.
Écoutez, on va essayer de le rappeler, Jean-Rémy Girard, qui est le président du SNALC, parce qu'a priori, il n'y a pas de raison. C'est la première fois, hein, je le dis aussi à Laurent Tessier qui est derrière la vitre, c'est la première fois que j'entends que des élèves auraient plus de travail parce qu'ils sont chez eux que de travail lorsqu'ils sont en présentiel, ce qui est illogique. Puisqu'effectivement, tu suis moins, c'est pas que tu suis moins d'ailleurs, c'est que c'est moins efficace l'enseignement distanciel. Ah oui, c'est moins efficace, disons-le.
Et c'est ce qui lui a été dit déjà lors du premier confinement. Vous étiez à la maison, vous aviez plus de temps pour travailler. Et là, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit déjà les devoirs arriver avec déjà des chapitres, alors que en temps normal, ces chapitres sont traités sur plusieurs heures de cours. Et là, il faudrait que le même chapitre elle puisse le traiter sur une seule heure de cours. Il y a un moment, il y a
ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose.
Oui, mais
c'est pas plus de travail, ça. C'est autre chose. C'est d'aller plus vite sur un cours.
Mais c'est pareil.
Le
problème, c'est que l'élève, lui, doit pouvoir intégrer tout seul, sans le soutien direct de contact avec le prof, la matière qu'il doit suivre. Il se retrouve seul derrière son ordinateur, c'est pas du tout pareil. Et s'il veut intervenir pour demander un peu plus de renseignements au prof, eh bien...
Restez Frédéric, on va appeler Jean-Rémy Girard. On va l'appeler parce qu'il a un petit peu de temps, il est chez lui. Donc je suis sûr qu'il va pouvoir nous répondre, même si c'est peut-être l'heure du déjeuner. Les profs sont chez eux.
Il n'est pas débordé, c'est ce que vous voulez dire ?
Non, dites pas ça.
Ah, pardon.
Parce que là, les profs, ils sont... voilà.
Non, je dis ça parce que tout à l'heure, il disait lui-même qu'il ne travaillait pas aujourd'hui. Attention.
Ah oui, vous avez raison. Il ne travaillait pas aujourd'hui. Il va pouvoir faire de la trottinette, ce qui sera un autre de nos sujets aujourd'hui. Les trottinettes sont-ils dangereuses ? Les trottinettes électriques. Et en fait, ce n'est pas les trottinettes électriques qui sont dangereuses.
Ah, ce sont les personnes qui les conduisent, c'est ça ?
C'est les usagers. Mais vous venez en trottinette à RTL ?
Non, je viens en métro.
D'accord. Alors, quand est-ce que vous utilisez votre trottinette ?
Quelques soirs d'été pour rentrer, pour prendre un peu d'air frais sur mon visage.
Écoutez, franchement, si mon grand-père revenait sur Terre et voyait des adultes avec des costumes, cravates et une sacoche en trottinette, il se dirait, quel monde !
Et si c'était en Solex, ça ne vous choquerait pas ?
Non, mais une trottinette, ben voilà. Vous voyez, maintenant, les hommes, un petit peu de dignité quand même.
J'ai eu un Solex il y a quelques années.
Mais c'est intéressant. Vous souhaitez faire vos mémoires, peut-être ? Vous souhaitez écrire un livre de souvenirs personnels ?
Passionnant, en tout cas.
La pause.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier. Avec Pascal Proulx.
Les usagers de trottinettes électriques, comme notre réalisateur Greg Caranoni, sont-ils dangereux ? Selon un dernier baromètre, ils n'ont pas le sentiment d'être soumis au code de la route. Leur conduite s'avère inconsciente. Éric Lemaire est le président de l'association AXA Prévention.
78% téléphonent au volant. Et puis quand on regarde l'alcool, c'est terrible parce que 49% avouent conduire leur trottinette en ayant bu plus de 2 verres d'alcool. C'est quand même extrêmement massif. Aujourd'hui, on est à près de 2 millions de ce type d'engins en France. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des comportements extrêmement inquiétants aujourd'hui quand on conduit une trottinette électrique.
79% déclarent rouler sur le trottoir, 68% ne portent pas de casque, 66% ne s'arrêtent pas au feu orange. Alors oui, ils sont dangereux, écrit Vanessa sur la page Facebook RTL. Les auditeurs, la parole, ils ne respectent rien. Interdisons ces trottinettes électriques. Lance Gabriel.
Lance Gabriel et non pas l'ange Gabriel.
Très bon jeu de mots.
Il faudrait, en effet, vous parliez tout à l'heure d'école de l'humour, ça aurait fait pas mal pour vous.
Jean-Rémy Girard, il est là ou pas ?
Il est là.
Bon, monsieur Girard, il y avait Frédéric, il est resté avec nous, qui est chef d'entreprise, sa fille est en terminale, et il dit une chose que je n'ai jamais entendue, je ne pense pas que ce soit une consigne des profs ou du rectorat ou du ministère, que les élèves chez eux ont plus de travail qu'ils n'ont en présentiel, Jean-Rémy Girard.
Alors, il y a 12 millions d'élèves, il y a plus de 700 000 enseignants. On s'est tous organisés dans l'urgence, hein, puisqu'on a appris quand même très très tard ce passage au tout distanciel. Donc, sans aucun doute, il y a des élèves qui doivent avoir plus de travail, il y a des élèves qui doivent en avoir moins, il y a des élèves qui...
Non, mais c'est théorisé, là. Le prof de Frédéric, le prof de la fille de Frédéric, c'est théorisé dans l'école. Vous êtes chez vous, donc on vous donne plus de jobs.
c'est bizarre.
Oui, là, c'est bizarre. Exactement. Moi, j'ai jamais entendu ça. Donc, Frédéric, il vous parle. Il est chef d'entreprise et sa fille est en terminale. Frédéric, je vous donne la parole.
Oui, tout à fait. Merci. Bonjour, cher monsieur. Alors, en fait, c'est le message que donc des profs du lycée de ma fille ont clairement et distinctement dit. Vous êtes à la maison, vous pouvez faire tout ce travail-là. Bah, c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que derrière ça, il n'y a aucun respect du rythme de l'élève et qui plus est du rythme dans la famille.
Jean-Rémy Gérard.
Oui, alors je pense que on est aussi soumis, j'allais dire, à cette image hein, qui est beaucoup véhiculée. Vous savez, les professeurs toujours en vacances, un peu fainéants, tout ça, 18 heures par semaine. Donc à un moment, il y a probablement aussi chez certains collègues une volonté de surcompenser pour qu'on ne puisse pas les prendre en défaut et qu'on dise non mais regardez, hein, on a donné beaucoup de travail, on n'est pas en vacances. Parce qu'il y a aussi ça qui a circulé, c'est-à-dire que c'était déjà les vacances. Donc je pense qu'effectivement, il ne faut pas hésiter à envoyer un mot poli aux enseignants de votre fille en disant que y a des contraintes familiales, que ce n'est pas forcément évident, qu'elle fera ce qu'elle peut dans le timing. Mais je pense que la plupart des collègues, la très très grande majorité d'entre eux, font de toute façon preuve de bienveillance. On est au courant que les conditions d'enseignement à la maison sont pas idéales parce que c'est pas vraiment de l'école. Hein. Ce qu'on est en train de faire, c'est de la continuité pédagogique. L'école, c'est en présence et c'est important que ce soit en présence, en fait. Donc n'hésitez pas à écrire un petit mot aux enseignants, polis, parce que eux-mêmes ont peut-être subi des pressions venues d'au-dessus, à droite, à gauche. Il y a certains chefs d'établissement qui ont organisé les choses de manière un petit peu autoritaire aussi. Donc c'est pas impossible que les collègues soient parfois aussi entre le marteau et l'enclume, ou même qu'ils aient reçu d'un autre côté un mot d'un autre parent disant attention, il faut vraiment que mon enfant ait beaucoup de choses à faire parce que c'est pas normal, il faut pas qu'il perde un jour de cours. On en a aussi des parents comme ça. Donc nous, on a parfois du mal à satisfaire tout le monde quand on reçoit des injonctions contradictoires.
Ben merci Jean-Rémy Girard de ce conseil. Et puis Frédéric, je vous propose de nous tenir au courant. Que ça m'intéresse. Vous écrivez un petit mail et puis ça m'intéresse vraiment de suivre cela. Merci à tous les deux et Jean-Marie-Rémy Girard. Ben, sauf si on a un troisième coup de fil, hein, vous savez, ou une troisième question, ben, on vous rappellera peut-être.
Je reste disponible au cas où.
Merci, monsieur Girard. Dernier témoignage de cette matinée particulière d'école à distance, école en résistance. Nous sommes avec Anne, qui est prof en primaire à Angers.
Oui, bonjour.
Bonjour Anne.
Alors moi je vous appelle pour vous dire en fait qu'on a décidé nous en équipe de ne pas attendre de tirer les leçons, enfin que les autres tirent les leçons pour nous, mais nous avons choisi nous de tirer les leçons et on s'est rendu compte au premier confinement que pour des enfants de primaire il était très compliqué de faire de l'école à distance avec des ordinateurs. Donc on a choisi vendredi, les enseignantes ont choisi de donner un plan de travail à chaque enfant en imprimant les documents pour tous les enfants. Et les enfants sont partis avec tous les documents pour mardi, jeudi et vendredi en mathématiques, en français et puis avec des activités plus ludiques. La seule chose qu'on a mis sur Internet, en fait, on a une adresse mail par classe et les parents peuvent communiquer avec nous s'ils ont des questions ou si les enfants veulent nous faire part de leurs difficultés. Mais on s'est dit que pour 3 jours, on n'allait pas attendre les couacs de l'informatique et qu'on allait revenir au basique. Et je peux vous dire, ce matin, je gardais des enfants du personnel prioritaire puisque je suis aussi chef d'établissement et les enfants sont arrivés avec leur plan de travail. C'était l'idéal. Chacun savait ce qu'il avait à faire et moi, j'étais là pour les accompagner et j'ai eu des retours de parents aussi qui disait que voilà, les dossiers imprimés avec tous les documents fournis par l'école, c'était quand même quelque chose de plutôt pratique.
Mais ce qui m'ennuie, moi j'entends ce que vous dites, mais c'est-à-dire que pour les primaires, chaque établissement a la liberté de choisir son mode d'apprentissage, les uns passant par Internet, les autres passant par le système que vous venez de dire.
En fait, c'est de la continuité pédagogique. Donc le principal, c'est que les enfants puissent continuer à faire des apprentissages, que nous, on puisse garder aussi le lien avec les familles et les enfants. Ça, c'est l'essentiel.
Et vous le gardez comment ?
Eh ben, par notre adresse mail, on a une adresse de classe et donc on communique avec les enfants. Moi, ce matin, je recevais déjà des messages d'enfants. J'ai aussi envoyé des messages et voilà.
Mais quelle classe vous avez en primaire ?
CE1, CE2, mais j'ai mes collègues de CM1, CM2 qui ont fait pareil. Mmh.
Et vous trouvez que les élèves de CE1, CE2 ne peuvent pas suivre des cours sur Internet? Si j'étais provocateur, je vous dirais qu'ils sont sur les écrans toute la journée, qu'ils savent bien jouer aux jeux vidéo, donc ils pourraient apprendre des cours. Mais si j'étais un peu provocateur, donc je ne vais pas le dire.
Mais moi, vous pouvez le dire, mais moi je l'ai fait au premier confinement.
J'ai et ça
fait
marchait
des
pas
conférences avec des petits bouts de 7-8 ans qui se retrouvent derrière un écran où le son est coupé, où on ne peut pas brancher la caméra. Je peux vous dire que c'est très compliqué.
Bon, bah, je vous crois. Je vous fais confiance. Voilà. Je vous fais confiance. Mais il y a quand même des... Alors, en primaire, donc, c'est pas... Mais même après, d'ailleurs, en collège, lycée, finalement, c'est un peu à discrétion des établissements et des profs.
Non, mais moi, je voudrais dire, attendez, on est en train de faire quelque chose. C'est 3 jours pour l'instant. Donc, je pense qu'il faut aussi être réaliste. Est-ce que l'essentiel, c'était pas qu'ils puissent travailler avec leur support, là, pour les 3 jours, que de mettre en place quelque chose qui va
être... Oui, parce que la vérité, c'est qu'ils vont pas le faire si vous leur donnez, c'est ça.
Aujourd'hui, on voit bien, ça fonctionne pas. Donc, les élèves de collège et lycée, ils se retrouvent dans des situations catastrophiques.
Votre argument n'est pas faux.
Est-ce qu'il fallait mieux pas partir avec les supports? Et si ça fonctionnait pas, au moins on avait les supports, parce que là, ils se retrouvent sans rien.
Pas faux.
Je trouve ça un peu dommage.
L'argument est recevable.
Aussi à dire, je suis quand même très surprise de la fermeture des écoles pour 3 jours, mardi, jeudi, vendredi. J'ai juste un petit garçon de 7 ans qui m'a dit dans ma classe, tu sais Anne, on a respecté le protocole, on a tout mis en place dans l'école, on a mis nos masques et aujourd'hui on ferme la classe. Et ben voilà, moi c'est une question que je voudrais poser au ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que je réponds à cet enfant qui depuis un an respecte le protocole, depuis un an met le masque et aujourd'hui se retrouve dans une situation où sa classe est fermée?
Là encore, l'argument s'entend. Merci, vraiment, merci beaucoup. C'est intéressant cette émission et on a terminé sur ce premier sujet de la classe à distance. Il n'y a pas eu un témoignage positif quand même, à la fois de la classe à distance, à la fois des écoles fermées. Il n'y a eu que des profs ou même des parents d'élèves, et même Paola qui est une élève, qui se sont plaints de la situation. À tout de suite, Monsieur Caranoni.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RT.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Alors qu'une proposition de loi pour légaliser le suicide assisté sera débattue à l'Assemblée nationale cette semaine, l'écrivain Michel Houellebecq, qui intervient très rarement dans le débat public, explique pourquoi il est farouchement opposé à ce qu'il considère comme une rupture anthropologique inédite. Et il termine en disant « Une civilisation qui légalise l'euthanasie perd tout droit au respect ». En parallèle, Lynn Renault s'est exprimée. Elle a dit « Je compte sur vous qui nous représentez pour voter cette loi qui donnera à chacun la possibilité de choisir sa fin de vie. C'est un progrès essentiel qu'on ne doit plus empêcher. » Et c'est en écho de ce que disait Françoise Hardy la semaine dernière à Stephen Ballery, où il demandait, où elle demandait, pardonnez-moi, d'alléger ses souffrances et de finir sa vie comme elle le souhaitait. On est avec Richard qui habite Besançon. Bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Merci à vous. Donc moi, voilà, je voulais juste réagir sur ce mot de Houellebecq, je vais dire mot malheureux, parce que lorsqu'il dit que une civilisation qui accepterait l'euthanasie perdrait tout droit, c'est le contraire. C'est le fait de pouvoir justement accorder cette possibilité à la personne de choisir sa fin lorsque cette fin est remplie de douleur, de mal-être, et dès l'instant où on sait que cette fin va être inexorable, comme j'ai pu le voir 2 fois dans ma vie avec ma grand-mère et un ami qui sont tous deux décédés de cancer, qui ont traîné, parce que, alors, le mot est fort, traîné, mais c'est vraiment ça, pendant des années, dont cet ami qui ne pouvait plus manger autrement que par une seringue dans son bras, qui ne pouvait plus parler pendant 3 ans. Je veux dire, je pense que s'il avait eu le choix, il aurait choisi l'euthanasie. Parce qu'il y a la personne, il y a la famille, parce qu'il faut aussi penser aux accompagnants qui n'auront plus que cette image-là. La première image qui leur viendra quand ils repenseront à l'être proche, c'est de se rappeler ses douleurs. Et ça, je veux dire, refuser ça à la personne, c'est juste aberrant. Je pense que vouloir accompagner les personnes âgées à bien vivre, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait bien, c'est ce qu'il faut faire. Dans l'instant où cet accompagnement ne fait que leur prolonger des souffrances, on devrait avoir le droit, en tant que personne, en tant justement qu'être humain, parce que c'est ça être humain, c'est pas réfléchir à la civilisation humaine, c'est prendre en considération la personne et l'aider. Et si justement l'aider, c'est l'aider à mieux terminer, à mieux finir dans de bonnes conditions, en lui mettant à disposition une seringue, un médicament, enfin peu importe, qu'elle puisse le faire, pourquoi pas avec ses proches à ses côtés et s'en aller sereinement, dire là il y aura un vrai progrès, là c'est être humain justement.
Écoutez, Richard, c'est à chaque fois qu'on fait ce débat, j'ai envie de dire, il y a autant d'arguments qui plaident dans les deux sens. Mais c'est vrai que moi, ce que je m'explique mal, c'est si on est contre l'euthanasie, on peut ne pas se l'appliquer à soi-même. Mais ceux qui veulent, pourquoi pas, finir leur vie de cette manière-là, ça n'enlève rien à ceux qui sont contre que eux terminent leur vie comme ça. C'est ça que
bien sûr,
je ne saisis pas forcément. Ouais.
Assurément, je dirais que c'est aussi le droit de la personne à jouir d'elle-même et à décider dès l'instant où elle n'a pas une maladie mentale qui prend en sorte que ça biaise son raisonnement.
Ce qui est intéressant, et j'entendais cet argument, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est que là, on parle de la santé physique dégradée. Nous sommes d'accord. Mais quelqu'un qui se suicide, qui a 30 ans, qui est en pleine forme. Donc là, c'est sur la santé mentale dégradée, par définition, puisqu'il ne croit plus en la vie, etc. S'il se jette d'un pont, on va le ranimer. C'est-à-dire que les pompiers vont arriver, on va le ranimer. Et j'entendais cet argument. Cet argument, je ne le trouvais pas forcément très bon, pour tout vous dire. Je l'ai entendu ces dernières heures. Et je vous le soumettais, cet argument. Mais vous pourrez en parler après la pause, peut-être, parce qu'il va être 14h, c'est pas très gai comme sujet, mais la mort n'est pas forcément un sujet gai, mais elle peut aussi, non pas être gai, bien sûr, mais être abordée d'une manière apaisée, intelligente, et qui nous permet ensemble d'échanger. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
14h. Le flash Alexandre de Saint-Aignan.
Un top départ compliqué pour le lancement de l'école à distance saison 2. Les serveurs ont planté ce matin alors que tous les établissements scolaires sont fermés jusqu'aux vacances. Le ministère de l'Éducation nationale dénonce notamment une attaque informatique venue de l'étranger. La situation est en train de revenir à la normale. Du retard dans les livraisons de vaccins Pfizer, 3 millions de doses n'arriveront en France que début juin. L'objectif de vacciner 20 millions de personnes d'ici mi-mai est maintenu, mais il sera plus tendu à atteindre selon le ministère de la Santé. Le lien désormais confirmé entre AstraZeneca et les rares cas de thrombose cérébrale selon un responsable de l'Agence européenne des médicaments. En revanche, on ne sait toujours pas ce qui provoque ce syndrome au sein du vaccin. Depuis le mois de novembre dernier, date de la fermeture des restaurants, 7345 établissements ont été contrôlés à Paris selon des chiffres du ministère de l'Intérieur communiqués à RTL. 300 d'entre eux ont été sanctionnés parce qu'ils étaient restés ouverts. Près de 1000 clients ont été verbalisés. 18 créneaux à Orly en échange de 4 milliards d'euros. La Commission européenne a donné son feu vert ce matin à la nouvelle aide de l'État français pour voler au secours d'Air France. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annonce que l'État pourra monter à un peu moins de 30% du capital de la compagnie aérienne et devenir ainsi son premier actionnaire. Les fouilles sont en cours dans les Ardennes pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin. Michel Fourniret a avoué le meurtre de la fillette il y a 18 ans. Son ancienne compagne, Monique Olivier, a donné des détails inédits aux enquêteurs la semaine dernière. La météo pour demain, un thermomètre proche de 0 au réveil, notamment sur la moitié nord. Un petit peu de neige prévue jusqu'en pleine demain. Des belles éclaircies sur le reste du pays. L'après-midi, il fera 7 degrés à Lille, 8 à Alençon, 9 à Paris, 11 à Bordeaux et 12 degrés à Nice.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Et à 14h02, donc on va conclure avec c'était Richard qui voulait, sur cette fin de vie, disserter sur notamment ce que disait Houellebecq. Et je vous laisse le dernier mot, peut-être, Richard.
Oui, mais juste pour rebondir sur ce que vous avez dit avant le flash. Mmh. Effectivement, la mort n'est pas un sujet amusant, on est d'accord. Mmh. Sauf que, de toute façon, c'est un moment inévitable dans la vie. On n'a pas le choix, on y arrivera tous. Et je pense que pouvoir le faire de façon sereine, C'est quelque chose qui est important. Quoi. Voilà, je veux dire, on arrive justement, on est au 21e siècle, on va dans l'espace, on fait plein de choses, des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer au Moyen-Âge ou il y a encore 200 ans. Pourquoi ne pas justement essayer de s'enlever ces œillères là-dessus et justement autoriser, aider, enfin, accepter que des gens en fin de vie, entre guillemets, en mauvais état, on va dire, voilà, avec des maladies incurables, puissent justement avoir le choix et décider pour eux-mêmes de s'en aller sereinement.
Bon, merci beaucoup Richard. Mathéo est là et ça va être intéressant parce que Mathéo, il a 22 ans. Et ce qui est frappant dans les enquêtes d'opinion, c'est quand je dis une large majorité, je suis en dessous, c'est-à-dire 90 ou 95% des Français interrogés chaque fois sont pour l'euthanasie. Est-ce que vous l'êtes également, Mathéo ?
Bonjour Pascal. Oui, je pense être pour l'euthanasie, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est sur des sujets effectivement qui touchent profondément à la façon dont est faite une société, parce que si demain elle est acceptée, c'est une mutation profonde de notre mode de vie. Il n'est pas question de communauté. Moi, en fait, je suis pour l'euthanasie ou du moins pour une façon de faire différemment les choses, mais je me reconnais pas forcément dans ce que Houellebecq parle des partisans de l'euthanasie.
Vous l'avez lu d'ailleurs la Tribune.
Oui, je l'ai
c'est
lu.
C'est du Houellebecq pur, hein. Elle est parfois pure, drôle, mais... elle est parfois, comment dire,
ouais,
sarcastique.
Je la trouve d'un cynisme. Pourtant, j'aime bien Houellebecq. Voilà.
Cynisme, vous trouvez?
Ben oui. Alors, pourtant, je suis sensibilité plutôt droitisante. Je suis plutôt même conservateur. Mais lorsque Houellebecq, vraiment, c'est dans les premières lignes de son édito, il dit, alors moi, je vous parle de la souffrance physique parce que, bon, la souffrance morale, ça a ses charmes. Mais cette phrase-là, elle est terrible. Quiconque a vécu des choses, et je sais que c'est le cas de chacun, sait que la souffrance morale, elle n'a strictement aucun charme. C'est celle
non, qui alors j'ai la phrase, là vous êtes... Ce qu'il veut dire, la souffrance morale a ses charmes, on peut même en faire un matériau esthétique. Et je n'en suis pas privé. Bah si, factuellement, c'est vrai.
J'ai vu des choses terribles, moi vous savez...
Non mais factuellement, c'est vrai.
Mais oui, mais
les artistes, parfois, dans la souffrance morale, ont tiré d'une dépression, pourquoi pas, de circonstances gravissimes. Je vais vous citer quelque chose d'horrible et qui va peut-être vous choquer. Victor Hugo a écrit sur la mort de sa fille, elle avait pris ce prix dans son âge.
Le plus beau des poèmes.
Bon, voilà, donc c'est ça qu'il veut dire. Mais ça, c'est un rapport esthétique au monde qui touche 0,001%
voilà,
des
moi,
gens.
Je vais vous dire une chose, Pascal. Lorsque j'ai un oncle qui est atteint de la sclérose latérale amyotrophique à peine 50 ans, lorsqu'il a ses enfants qui n'ont pas 20 ans en face de lui, lorsqu'il était une force de la nature et qu'il a amoindri à rien et qu'on ne le reconnaît plus, je vous assure qu'on est loin des salons parisiens où on peut faire de la poésie. On est dans l'horreur. Et peut-être qu'on fera de la poésie à peut-être 20 ans de plus, mais à ce moment-là, je vous assure qu'il n'y a que des pleurs. Et il n'y a qu'une souffrance qui est immense de la part du malade et de la part de la famille. Et je pense que lorsque je dis ça, je m'adresse à chaque Français. Chacun a vécu ce moment-là. Bien sûr, on peut faire de la poésie, mais tout ça, c'est réservé vraiment à des gens qui ont le temps d'en réfléchir et peut-être d'un cerveau certainement plus développé que le nôtre. Mais moi, en tout cas, j'en suis pas capable. Et j'ai juste envie de proposer aux Français simplement une façon de faire les choses différemment. Il ne s'agit pas de partir dans une folie, comme c'était possible, je crois, en Belgique, de choisir quand on va mourir. L'euthanasie, c'est pas choisir quand on va mourir, c'est choisir comment. Et si comment, c'est un peu plus de dignité. Alors Houellebecq, lui, dit la dignité, c'est complètement galvaudé, on devrait arrêter de l'utiliser. Parce qu'il dit, moi-même, j'en suis complètement dépourvu. Bah, malheureusement pour Houellebecq, il en est dépourvu. Moi, j'en ai un tout petit peu. Et j'en avais aussi beaucoup dans les yeux de ceux que j'ai perdus. Et je voulais quand même la préserver au moment où je les ai vus au plus bas. Donc là, la souffrance, elle a peut-être ses charmes, mais en tout cas, moi, je ne la veux pas. Et je pense qu'il faut que l'on comprenne ça. Et je pense par-dessus tout que si un débat doit être initié sur l'euthanasie, il ne doit pas être initié par une phrase insultante. Perd tout son respect. Il faut qu'on ait un débat où on écoute tout le monde. Moi, j'ai rien contre Michel Houellebecq, mais il faut que l'on puisse écouter tout le monde. Ça ravive des douleurs qui sont terribles chez chacun d'entre nous. Et on a chacun... Nos raisons d'être pour ou contre. Moi, j'ai mes raisons d'être pour parce que j'ai perdu des gens qui sont partis d'une maladie très très longue. Mais j'ai aussi un copain qui a eu un accident de moto qu'on pronostiquait mort pendant 3 semaines et qui depuis des mois déjoue tous les pronostics. Donc mon cœur balance, Mais en tout cas, il faut qu'il y ait le débat. Et c'est pas faire droit au respect, parce que je crois que du moment qu'il y a débat, et du moment que l'on respecte l'autre, eh bien le respect, il est établi et la société mérite d'être respectée.
Bah écoutez, bravo. Je trouve, Mathéo, que votre démonstration, et c'était très remarquable, très brillant, qu'on soit d'accord ou pas avec ce que vous avez dit, mais effectivement, je pense que beaucoup de gens auront été sensibles et touchés par ce que vous venez de dire et de la manière dont vous l'avez dit. Merci beaucoup, Mathéo. On va poursuivre ce débat avec Patricia et Laurent. Je ne sais pas s'ils ont lu la tribune de Houellebecq entièrement, mais effectivement, c'est une question qui se pose parce qu'une loi sur l'euthanasie va être discutée cette semaine et une civilisation qui légalise l'euthanasie perd tout droit au respect. C'est les mots de Michel Houellebecq, un des écrivains majeurs. Il n'y en a pas tant que ça, des écrivains français majeurs sur lesquels tout le monde est à peu près d'accord et Michel Houellebecq en fait partie. A tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous sommes avec Patricia. Bonjour Patricia, qui habite Grenoble. Et c'est un sujet à la fois sur l'euthanasie et sur la tribune de Michel Houellebecq, qui, je le rappelle, regrette cette idée d'euthanasie en France, légaliser une civilisation qui légalise l'euthanasie, perd tout droit au respect. Bonjour Patricia.
Bonjour, je suis contente de pouvoir témoigner. Je voulais, avant de commencer, dire à Richard et Mathéo qui ont eu une intervention absolument extraordinaire. Et ils ont tellement su décrire ce qui se passait quand on était, quand on risquait d'être confronté à ce problème, ce qui est mon cas pour ma maman, qui est décédée il y a un an et demi. Alors quand Monsieur Houellebecq parle de qu'on perd le respect en voulant l'euthanasie, mais on n'a pas du tout la même définition de respect, parce que pour moi, ma maman, le système ne l'a pas respectée. Elle est partie dans une indignité effroyable. C'était tellement pas elle. Elle était toujours dans la joie, dans la bonne humeur, coquette. Et quand elle a été hospitalisée, elle a été en EHPAD suite à un accident. À l'entrée de l'EHPAD, elle avait bien donné ses consignes. Hein. Elle m'avait fait promettre que je veillerais à ce que ces consignes soient respectées. Sauf que j'ai pas pu tenir ma promesse. J'ai pas pu la tenir et je suis très en colère. Très, très en colère parce qu'elle est partie c'était insupportable. J'ai vu ma maman, suite à une surinfection pulmonaire, elle a été comment est-ce qu'on appelle des, vous savez, la poche que l'on met là pour les alimenter, j'arrive plus à trouver le mot.
On comprend. Effectivement, voilà. ce que ça peut être dans ces cas-là.
Voilà, et morphine et tout, et il est arrivé un moment où son cas s'est vraiment aggravé, donc je suis allée voir le docteur, j'ai dit, écoutez, conformément à ce que maman a signé, le docteur de l'EHPAD, il faut faire quelque chose. Il m'a dit, moi madame, je suis pas là pour abréger, je suis là pour continuer à les faire vivre. Maman, faut que je vous dise que maman avait 92 ans quand même, hein, d'accord, 92 ans. Et je lui ai dit, mais dans notre civilisation, il vaut mieux être un chien qu'un être humain. Parce qu'un chien, on le voit agoniser comme ma maman agonisait. On ne se posait même pas la question, à moins d'être tordu dans sa tête, quoi. Et ben ma maman, alors ils ont commencé à lui enlever les perfusions. Ils lui ont laissé que les morphines. Donc,
elle ne souffrait pas, parce qu'a priori, on peut éviter la souffrance. C'est important de le dire aussi dans ce débat. A priori, aujourd'hui, on peut éviter la souffrance. Hein.
Alors ça, c'est ce qu'ils nous disent. C'est ce que m'a dit le médecin. Il m'a dit, de toute façon, ne vous inquiétez pas, ça va durer 2-3 jours. Ça a duré 10 jours, d'accord. Je n'avais le droit qu'à lui mettre sur les lèvres de l'huile de ricin pour éviter qu'elle était pleine d'escarres. Et quand il m'a dit ça, elle ne souffre pas. J'ai dit, docteur, est-ce que quelqu'un est revenu de cet état pour vous dire qu'on ne souffre pas. Ça, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Ma maman, c'était devenu... elle était pleine d'escarres. Elle sentait le pourri, ma maman. Elle sentait le pourri. Il fallait que j'y passe de l'autre colonne, dans les cheveux, tout. Tout ce qu'elle ne voulait pas. Tout ce qu'elle n'était pas. Ils ont volé le départ de ma maman. Elle nous disait toujours... Moi, je veux partir sans souffrance et partir sans acharnement parce que j'ai eu une belle vie. J'ai eu une belle vie. Je ne veux pas avoir une mort sordide. Elle a eu une mort sordide.
Alors, Patricia, d'abord, votre témoignage est bouleversant et j'imagine, pour vous, ce n'est pas aisé de revivre ces moments-là. Mais il se trouve que Laurent vous écoute et Laurent... il a lu la tribune de Michel Houellebecq et il est plutôt d'accord avec Houellebecq. Donc peut-être peut-il vous apporter des arguments, si tant est qu'on apporte des arguments, je ne vois pas ce qu'il peut dire par rapport à votre situation, Patricia, mais d'une manière générale, théorique, peut-être Laurent. Bonjour Laurent.
Bonjour Pascal.
Qu'est-ce que vous répondez à Patricia lorsque la théorie au fond, et ça serait bien que Houellebecq, s'il était là, on lui dirait la même chose, il y a la théorie, il y a ce que vous écrivez, puis il y a la réalité de ce que décrit Patricia.
Écoutez, au risque de vous décevoir, je vais aussi parler de mon expérience personnelle, plus que de la théorie, et je rejoins tout à fait Patricia, parce que j'ai perdu mon père il y a 4 mois dans un service de réanimation, et on m'a empêché de lui rendre visite pendant 17 jours. On l'a laissé partir tout seul. Donc, je pense que la priorité, c'est évidemment de réintroduire un peu d'humain dans les services de santé, dans les EHPAD. Évidemment, c'est d'éviter l'acharnement thérapeutique. Mais il y a déjà une loi, la loi qui est actuellement en cours, qui prévoit ça. Mais par pitié, ne tombez pas dans l'excès inverse, qui est de se débarrasser de cette question de la mort, qui est en fait donc l'euthanasie, qui est une manière totalement... aseptiser, hygiéniste de considérer la vie et une manière d'écarter la mort, malheureusement, de nos existences.
Oui, mais vous ne répondez pas, vous voyez, aux arguments de Patricia. Elle vous écoute d'ailleurs, Patricia, et on va peut-être marquer une pause, si vous le souhaitez, pour précisément mettre ce dialogue. J'ai envie de dire, c'est un dialogue impossible, hein, de toute façon, entre partisans de l'euthanasie et... ceux qui
je voulais
ne
simplement
pas.
Demander quelque chose. C'est comment est-ce qu'il s'appelle, Laurent?
Laurent. Oui.
Laurent, sans aucune animosité. Est-ce que vous êtes croyant?
Écoutez, ouais, ça n'a absolument rien à voir avec mes convictions.
Eh ben moi, je vais vous dire, ma maman était croyante. Vous voyez, j'ai tous les jours, ouais. J'ai son chapelet autour du cou. Et ben malgré ça, elle allait à la messe tous les dimanches. Elle faisait ses prières. Et malgré
je
ça,
pense que c'est vraiment pas le débat, malheureusement. C'est vraiment une question de.
Si, moi, je pense que ça l'est. Quand on voit comment ça s'est passé pour Monsieur Humbert, je pense que ça l'est. C'est une partie, du débat.
Je pense pas que Michel Houellebecq soit une grenouille de Vénitier.
Ah non. Moi, je vous parle. Voilà, moi, je discute pas avec Monsieur Houellebecq. Je discute avec vous, et il n'y a aucune animosité, aucune, voyez, non, pas du tout, pas du tout, parce que comme je vous l'ai dit, maman était pratiquante, moi je vais à la messe toutes les semaines, et quand je ne peux pas aller à la messe, je regarde la messe à la télé, donc il y a la religion, d'une partie, et je ne dis pas que vous êtes dans ce, mais il y en a beaucoup qui sont dans ce schéma, et puis il y a la vie, il y a le respect, il y a tout ça, moi depuis que ma maman est
justement, si vous êtes croyante, je pense que vous avez un espoir pour une vie dans l'au-delà et donc vous respectez la mort.
La mort, je la respecte quand elle arrive naturellement. Mais quand il faut les faire tenir.
Alors ça c'est extraordinaire. Si vous êtes pour l'euthanasie, la mort elle n'est pas naturelle pour l'euthanasie, chère Patricia.
Les gens qui meurent d'une mort naturelle.
Peut être naturelle.
Non, mais sans souffrance, avec de la dignité. Parce que moi,
c'est pas la même chose.
Alors, je me suis peut-être mal expliquée. Moi, ce qui a sauvé ma maman, c'est que le week-end, le médecin n'était pas dans l'EHPAD, d'accord ? Il n'y a jamais de médecin dans l'EHPAD. Et le samedi, maman, c'était insupportable. Elle n'arrivait plus. Donc, je suis allée voir les infirmières. Je dis, je ne sais pas si maman est en train de mourir, si elle est encore vivante, parce qu'elle s'arrêtait, ça partait. Elles sont venues, c'est des infirmières qui la suivaient, hein, parce que pendant 15 jours, ça a été quand même... moi, je ne la quittais pas, mes sœurs, on se remplaçait. Elles se sont regardées, elles ont dit, bon, maintenant, ça suffit, appelez vos sœurs. Et elles ont fait ce qu'il fallait. Bien sûr que j'en ai jamais parlé au sein de l'EHPAD, parce que je pense que... Mais je sais pas ce que je pourrais faire.
C'est-à-dire que les infirmières ont accéléré son départ, c'est ça que vous dites,
voilà, appelez votre sœur, ça suffit.
Ben merci Patricia, merci Laurent, c'est un sujet extrêmement délicat et... c'est difficile d'avoir une position définitive pour tout dire, mais je le répète, Là où on doit peut-être pencher d'un côté, c'est que c'est une liberté quand même individuelle. Si quelqu'un exprime cette volonté-là, je vois pas au nom de quoi, moi, je vais lui dire non. Voilà. La pause, les trottinettes pour terminer, c'est infiniment plus léger, et le débrief que la France entière attend.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
J'imagine qu'il n'existe pas de chanson sur les trottinettes, Greg Caradoni.
Comme il n'existe pas de chanson sur les trottinettes, j'en ai fait une.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins.
Ne chantez pas, ne chantez pas.
À trottinette.
Ah oui, monsieur.
Nous étions quelques bons copains.
Et Galinette.
Il y avait Francis et Sébastien.
Nous sommes avec les usagers de la trottinette. Tu vas prendre une trottinette électrique.
Nous sommes avec Yves, justement. Ça tombe bien. Bonjour Yves.
Bonjour.
Vous êtes à trottinette ?
Oui, tout à fait.
Et vous n'avez pas peur ? Parce que là, moi, pour me faire monter sur une trottinette, croyez-moi, dans Paris, c'est pas gagné. Hein.
Ben écoutez, je vais vous dire franchement. Au départ, c'était un petit peu pour le confort du trajet domicile-travail. Mmh. Pour pouvoir, je dirais, transformer un trajet de 25 minutes à pied en beaucoup plus rapide. Et en définitive, de 25 minutes, je suis passé à 4 minutes. Et c'est vrai qu'au tout début, je me suis dit, mais il va falloir quand même que je m'entraîne, que je fasse de l'entraînement un petit peu avant de m'engager sur les routes, etc. Bon. Eh bien, je n'ai pas eu besoin d'entraînement, puisque dès la première dès la première fois que j'ai enfourché la patinette, eh ben, j'avais l'impression d'en avoir fait depuis des années et des années. Mais par contre, effectivement, il faut quand même se protéger. Je porte le casque. J'ai acheté des gants de moto qui protègent quand même beaucoup mieux les mains que les gants en laine. Et il faut quand même, je dirais, comme tout engin, que ce soit un vélo, une voiture, un camion, il faut faire attention. On ne roule pas comme un fou. Il ne faut pas se croire invincible.
Non, mais sauf qu'on n'est pas protégé. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose qu'une voiture, évidemment. Mais même un deux roues, c'est un peu plus stable. Je vous assure. Moi, dans Paris. Faut être courageux hein, pour rouler avec une trottinette au milieu des voitures.
Faut pas non plus. Déjà, il faut pas non. Faut suivre les voitures. Hein,
vous avez quel âge ?
J'ai 56 ans.
Ah bah oui, en plus vous avez mon âge. Vous êtes de 64, 65 ?
65.
Eh ben c'est bien. Vous êtes courageux. Mais les 25 minutes, vous les faisiez à pied ?
Avant, je les faisais à pied, tout à fait.
Et ces 20 minutes-là, vous n'aimiez pas marcher à pied, par exemple ?
Eh bien, c'est-à-dire qu'avec l'âge, on commence...
Justement, de marcher à pied, avec l'âge, précisément.
C'est ce qu'on dit, mais bon...
Bon, vous faites ce que vous voulez, hein, de toute façon. Oui, 14h25, ça va être le débrief. Je savais que ce serait court, c'est le dernier auditeur, c'est un peu le jeu de cette émission. Il y en a toujours un qui est un peu sacrifié, si j'ose dire. Mais on peut peut-être demain vous retrouver, Yves. Le débrief, bonsoir Yves.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
C'est le retour de l'école à distance aujourd'hui. Emmanuel Macron nous avait prévenu.
Les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison.
Et le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, était confiant jeudi dernier sur RTL.
L'enseignement à distance est préparé, avec des ressources qui sont très importantes, je le dis pour tout le monde.
Ouais, mais sauf que ce matin... Voilà, message d'erreur, certains cours en visio ne fonctionnent pas, des problèmes de connexion dans certaines régions, des messages d'erreur, les coulisses de la préparation tient de l'enseignement à distance.
Branchez le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, vous appuyez et plaf.
Ouais. Et puis la malchance ne s'est pas arrêtée là.
Vous avez eu des attaques informatiques apparemment venues de l'étranger.
Et Pierre est professeur d'histoire-géographie, il a vraiment passé une sale matinée.
Quand on nous dit c'est une panne, c'est ceci, c'est cela, faut pas se foutre de nous. On n'a tenu aucun compte des problèmes qu'il y a eu il y a un an. personne n'a strictement rien foutu, on se moque de nous, on a une administration complètement à côté de la plaque et c'est pitoyable.
Paola a 14 ans, elle est collégienne, même bug.
Retour en mars 2020 et donc on peut pas se connecter, on a un message qui nous indique la saturation de la plateforme.
Jean-Rémy Girard, le président du SNAL, que le syndicat national des lycées et collèges est venu aussi nous donner son avis au 3210.
Comment ça s'est passé pour vous ce matin?
Alors moi ça va parce que j'ai pas cours le mardi, donc ça s'est plutôt bien passé. Voilà, mais pour mes collègues
c'est la meilleure punchline de l'émission.
Des confessions aujourd'hui dans l'émission, notre réalisateur Greg Caranoni.
Je vous écoute tous les midis, hein.
Bah oui, bah, vous avez raison.
Ah oui, normal, vous êtes notre réalisateur. Pascal, quelque chose à dire sur votre vie intime, personnelle?
Moi, je suis un peu lent hein, sur certaines choses.
Non, mais je vous en prie. Autre question, les usagers des trottinettes électriques sont-ils dangereux? Selon le dernier baromètre AXA Prévention, ils n'ont pas le sentiment d'être soumis au code de la route. Leur conduite s'avère inconsciente. Greg Caranoni en fait partie.
Ah, vous roulez sur le trottoir? Ça m'est arrivé une fois, je crois.
Bon, bah une fois, ça va. Mais on roule
le
pas
feu orange,
sur le...
peut-être une fois.
Non, mais au feu
pas
orange...
Pas de casque? Jamais de casque, c'est vrai.
Aïe, 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 une confession qui vous énerve, Pascal.
Mais une trottinette, ben ouais. Vous voyez, maintenant, les hommes, un petit peu de dignité, quand même.
J'ai eu un Solex il y a quelques années.
Mais c'est intéressant. Vous,
je
vous
sais,
souhaitez
je...
faire vos mémoires, peut-être? Vous souhaitez écrire un livre de souvenirs personnels?
La vie de Greg Caradoni. Allez, il faut se détendre avec une blague maison. Interdisons ces trottinettes électriques. Lance Gabriel.
Lance Gabriel et non pas l'ange Gabriel.
Bah ouais, ouais, ouais.
Ouais, très bonne vanne. Sinon, toute l'équipe des auditeurs a la parole, a mené une grande enquête sur notre réalisateur. Oui, souvenez-vous, mesdames et messieurs, le 10 février.
Alors, vous avez fait quoi hier soir, par exemple?
Bah, alors, je rentre un peu trop tard pour cuisiner le soir.
Ah non, terrible révélation.
Vous êtes vraiment gonflé, vous êtes vraiment... Je pensais que vous étiez un homme moderne, mais quel match.
Je
vous
suis
rendez compte
moderne.
De votre réponse. J'attire les féministes à ce que vous venez de dire à l'instant.
Non,
quand je rentre un peu tard, je ne peux pas faire la cuisine.
Non, pas
et
du
votre
tout.
Femme.
Vous n'avez pas laissé finir.
Mais oui, et votre femme, mesdames et messieurs, en exclusivité pour RTL.
This is breaking news.
Nous allons savoir si Greg Caranoni prépare désormais le dîner. Avec nous, Madame Caranoni, prépare-t-il aujourd'hui de bons petits plats?
Oui, des petits plats délicieux.
Ah, oh, il est merveilleux ce Greg. Allez, c'est pris pour aujourd'hui, c'est terminé.
C'était Madame Caranoni.
Caranoni.
Bonjour Madame Caranoni, ça nous fait plaisir. Mais c'est bien, c'est intéressant.
Interview exclusive, allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson chantée par tous les élèves lors du bug des plateformes d'enseignement.
L'école est finie. Flavie Flamand dans une seconde.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.